Bon, mais tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à cette autre édition des Amateurs de Mac. Bonsoir, cette émission qui vous propose, bien sûr, de répondre à vos questions et interrogations. Et bon, si vous avez même des choses à nous apprendre, ça va nous faire grand plaisir de partager tout ça avec vous. Donc, puis de vous que nous partagez ça avec nous. Donc, on attend vos questions. Vous pouvez le faire facilement en cliquant sur le bouton « Submit question » qui est juste en dessous de nos fenêtres de webcam. Et également, vous pouvez le faire via le chat. On peut la diffuser par la suite, cette même question-là. Donc, gênez-vous pas. Et on a bien sûr aussi l'opportunité de poser des questions tout au long de la semaine. Donc, via soit Twitter, soit par email, ou bien tout simplement en allant visiter le site web de Mac Québec, donc ou Facebook également. Donc, on va y aller tout de go. On va aller avec une question qui nous vient de Stéphane Saint-Laurent. Peut-être que Jean-François, tu pourrais nous la donner.
Oui, je vais... La première question, c'est avec l'arrivée du iPad mini LTE, si on a déjà un iPad 3G, est-ce qu'on pourrait combiner les deux forfaits de données pour en faire qu'un seul au lieu d'avoir un forfait pour chaque?
Oui, vas-y, Bernard.
Présentement, Rogers offre un forfait. Il y a une espèce de bonus que tu peux payer, genre, à peu près, je crois que c'est 12 $ si je ne m'abuse. Tu peux payer un petit peu plus cher pour combiner justement un forfait de data avec partager avec plusieurs appareils. Mais il y a un frais pour ça, donc c'est 12 $ versus peut-être de payer un forfait flexible. Ça, je me questionnais vraiment si c'est vraiment un bon deal ou pas.
D'abord, la réponse va être différente de chacun des fournisseurs. Donc, nous, on est chez Rogers, donc peut-être un peu moins au courant de ce qui se passe chez TELUS, qui semble l'idée par l'exemple, puis être plus accommodant au niveau de ces questions-là. Bell semble complètement fermé, bouché bien dur, entre autres, en fait, là, pour ce qui est de débarrer les téléphones. Et Rogers, en fait, on s'est retrouvé avec une situation semblable. Quand le iPad est sorti, le iPad 3 ou le nouveau iPad, c'était le premier qui était en LTE. Et moi, j'avais demandé à Rogers, est-ce que c'est possible de sharer, quitte à vous payer un petit peu plus cher, ma bande passante de 6 gigs, iPad et le téléphone. Et on m'a dit, ben, comme c'est deux réseaux différents, on ne peut malheureusement pas le faire. Quand le iPhone 5 est arrivé avec le LTE, ben, j'ai reposé la question. Puis là, pour d'autres espèces de raisons nébuleuses, c'était pas possible. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai, comme Bernard l'expliquait, un plan flex qui me coûte 20 $ par mois pour 500 MB, mais qui peut aller jusqu'à 35 $ par mois. Et c'est pour 10 gigs, parce que c'était une promotion qu'il y avait à ce moment-là. Normalement, là, le plan flex commence à 250 MB pour 20 $ puis il monte jusqu'à 5 gigs pour 35.
Exact.
Des espèces de barèmes là, en dessous.
Mm-hmm. Je crois que c'est le seul fournisseur canadien qui offre cette possibilité-là d'avoir à payer un surplus pour combiner deux appareils ou trois appareils à l'intérieur du même forfait de données. Je pense que c'est juste Rogers qui l'offre pour le moment.
Écoute, pour l'utilisation, moi, je recommanderais pas ça. Là. Vous devriez avoir un paquet de bandes passantes pour chacun des devices, parce que le LTE on a vu cette semaine, là, il y a eu un paquet de rumeurs. Attends, c'était quoi? C'était l'application podcast. C'est sorti aujourd'hui là, qu'il y aurait eu des leaks et qui téléchargeait des podcasts ou le header des podcasts sans cesse. Donc ça, c'est parce qu'on a vu beaucoup de gens dépasser leurs limites de bande passante depuis l'arrivée du iOS 6, depuis l'arrivée du iPhone 5. Puis on se demandait d'où ça venait. On pensait que c'était un bug au départ qui faisait que le Wi-Fi, même si ça affichait sur ton téléphone qu'il était connecté sur le sans-fil, il utilisait quand même la bande passante du LTE puis des trucs comme ça. Et on pensait que 6.01, qui est arrivé il y a à peine une semaine, réglait ce problème-là. Moi, je suggérerais vraiment d'avoir une bande passante. Ça dépend de la consommation, évidemment, que vous faites, là. Mais moi, j'en consomme beaucoup, puis j'ai été obligé d'augmenter sur mon iPhone 5 ce qu'il y avait comme bande passante. Je suis passé à 10 gigs au lieu de 6.
D'accord.
OK, puis c'est dans ton flex?
Dans mon... Pour l'iPhone, donc, en fait, il y a l'espèce de plan là, qui existe depuis des années, 6 gigs pour 30 $. Moi, je les ai agressés sauvagement au téléphone, puis ils m'ont offert un plan qui, normalement, est 100$ par mois, qui est pour 10 gigs, puis ils me l'ont fait à 50$. Fait que je trouvais ça honnête, pour avoir 4 gigs de plus pour 20$.
Mm-hmm. OK.
Puis, comme le dit Mathieu Gosselin dans le chat, vous pouvez toujours partager, parce que le iPhone, on peut s'en servir comme un hotspot. Pardon. Oui. Donc, vous pouvez toujours vous servir de votre iPhone, du forfait de l'iPhone, pour partager les données à votre iPad. Et c'est même pour ça qu'il y a plusieurs qui n'achètent pas le iPad avec data cellulaire, mais qui l'achètent simplement avec un Wi-Fi parce qu'ils possèdent déjà un iPhone. Donc, ça dépend la façon que vous voulez l'utiliser. Si vous traînez pas, si vous n'avez pas d'iPhone ou si vous ne traînez pas toujours votre iPhone, à ce moment-là, ben là, c'est à vous à voir là, pour le type de modèle de iPad que vous voulez.
L'autre chose, c'est que le iPhone, c'est sûr qu'on l'a toujours dans les poches et qu'on le transporte. Tout dépendant, Jeff, toi, tu n'as pas d'iPad?
Non.
OK. Toi, Bernard, tu en as un. Ouais. Est-ce que ton iPad, honnêtement, tu sors un appareil que tu utilises dans la maison?
Dans la maison, oui.
Oui, c'est ça. Mais est-ce que tu sors beaucoup avec? Est-ce que tu te promènes avec ton iPad? Oui,
tous les jours.
Moi, j'ai tendance à ne pas trop l'utiliser quand je suis à l'extérieur de la maison, même s'il est avec moi. C'est une tablette que j'ai l'impression, en fait, la manière que je l'utilise, c'est plus dans le confort de mon foyer, en pyjama. Je descends en bas. Je l'utilise comme, ils appellent ça... le concept de second écran.
Ouais.
Donc, quand j'écoute la TV live, des émissions, mettons, tout le monde en parle, puis que je veux tweeter en même temps, à ce moment-là, je l'utilise là. Ça.
Mais la question, ça serait peut-être plutôt, est-ce que tu l'utilises pour aller sur Internet tout le temps quand tu es à l'extérieur? Là, je t'aurais répondu, pas vraiment, parce que je me sers beaucoup pour regarder des podcasts que j'ai déjà téléchargés. Bon, tu sais, je m'en sers d'une façon différente. Est-ce que je vais regarder les courriels, aller naviguer sur Internet? Pas nécessairement.
J'ai eu dans les mains aujourd'hui, je suis passé ce matin à la coop de l'UQAM, nos amis de la coop, et ils avaient un iPad mini qu'ils m'ont mis entre les mains. C'est un iPad mini qu'ils sont censés nous prêter à Mac Québec pour qu'on en fasse le test, mais ils doivent le prêter à quelqu'un. On va l'avoir là, incessamment. C'est vraiment une belle bête et selon moi, c'est un appareil qui est plus à même d'être intéressant avec une connexion LTE. Le rapport avec l'appareil, à cause de sa petitesse, de sa minceur, de son poids, est vraiment différent d'un iPad. L'iPad, tu le sens dans tes mains. Quand tu le tiens et que tu fais de la vidéoconférence, quoi que ce soit, c'est comme tenir un laptop dans tes mains pour te déplacer. Tu as envie de le déposer. Mais le iPad mini, tu n'as pas envie. Tu l'as dans les mains, puis je pense que c'est 0,63 kg. Là, c'est des peanuts là, que ça pèse. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant à tenir.
Ça peut être intéressant dans le métro, parce que moi, je prends beaucoup le métro pour aller travailler. Puis c'est sûr qu'un iPad, je vais le sortir juste quand je vais être assis. Si je suis debout, je ne le tiendrai pas d'une main et tenir la barre d'une autre main. Donc,
et l'iPad mini, tu pourrais.
Exactement. L'iPad mini, là, je pourrais. Parce que je peux le faire avec l'iPhone, mais l'iPhone, bon, il est beaucoup plus petit. Là. Donc, oui. Peut-être que l'iPad mini, je serais peut-être un meilleur client d'un iPad mini pour l'utilisation que j'en fais que du iPad régulier, dans le fond.
De toute façon, dans le métro, la 3G, il n'y en a pas. Poser s'en venir d'ici 2063, on va tout simplement.
Ouais. Mm-hmm. Mais il y a comme Mathieu dans le chat qui dit qu'on est courageux de sortir vous êtes courageux de sortir vos iPads et vos téléphones dans le métro puis dans l'autobus là, parce que
on n'est pas à New York là.
C'est parce qu'il y en a 25 autour de nous autres qui en ont un dans les mains aussi.
Ouais.
Donc, ils ont beau parler dans les médias qu'il y a une recrudescence de vols puis tout ça. C'est sûr qu'il y a des stations de métro où est-ce que tu hésites un peu plus puis tu le glisses dans ton sac peut-être pour écouter. Mais écoute, le nombre de personnes qui ont des écouteurs blancs dans le métro puis qui sont sur leur iPhone puis tout ça, je veux dire, il n'y a pas vraiment de danger. En fait. Jusqu'à temps que ça t'arrive, que tu te fasses puncher par une gang puis que... ramasse ton...
Ça dépend de l'heure. À l'heure de pointe, il y a tellement de gens dans le métro qu'un voleur, ça ne serrait même pas. Il faut qu'il ramasse un iPhone puis qu'il parte à courir, mais il y a tellement de gens, ça va lui nuire. Tandis que le soir, ça, c'est une autre paire de manches.
De toute façon, les métros, il y a tellement de coupures de service que si tu n'as pas de quoi pour passer le temps, là, tu risques de mourir dans la nuit.
C'est sûr.
On va passer à une autre question qui est dans le chat de Spreecast. Ça vient de Yves, qui nous demande « Bonsoir, est-ce une bonne idée d'acheter un iPhone 4S? Est-ce que c'est dépassé? Merci. »
Bernard?
Ben, moi, je possède un iPhone 4S. Je n'ai pas passé au 5. Et je suis toujours très, très content de mon iPhone 4S. Essentiellement, le iPhone 5, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est sûr qu'il y a un meilleur processeur, une meilleure lentille. C'est le même appareil photo, la même résolution, mais la lentille est meilleure. Puis, il y a aussi l'écran qui est plus grand. Mais à part ça, je veux dire... Oui, c'est ça que je disais, le processeur, l'écran est un petit peu plus grand, puis peut-être une meilleure lentille au niveau des appareils photo. Mais quand j'ai vu des tests là, qui faisaient une différence entre les images, oui, il y a une différence, mais pas si grande que ça. Il faut vraiment être maniaque. Là. Si tu veux être maniaque, mais là, il faut voir, tu achètes un vrai appareil photo. Là. Parce que dans le fond, oui, on prend des photos avec du iPhone, mais bon, c'est plus pour faire du Instagram que d'autres choses. Là. On fait des bonnes photos avec, mais c'est pas un super appareil photo comme il n'y a pas un smartphone.
Jean, c'est si tu achètes un appareil qui n'est pas de la gamme S, ben tu changes quand le nouvel appareil pas de la gamme S sort. C'est-à-dire que si tu as acheté un iPhone 4, regarde pour changer quand le iPhone 5 sort. Mais passer d'un S au 5, si c'est ce que tu as déjà, faut vraiment être un peu craqué. Moi, c'est ce que j'ai fait. JF aussi l'a fait.
Non, moi, j'avais un 4, moi.
Ah, OK, tu avais un 4. Moi, j'ai absorbé, en fait, le frais que Rogers me chargeait pour faire la mise à jour. Quoique chez Rogers, en fait, pour eux autres, là, j'étais avec eux autres depuis 2 ans. Donc, l'année passée, là, j'avais acheté le téléphone débarré.
Ouais, merci beaucoup. Ils m'ont fait sauver 175 $.
Oui. Tu devrais pas le dire trop fort. Ils vont te le charger la prochaine... prochain truc. Mais... est-ce que c'est un bon appareil? Personnellement, moi, je suis vraiment satisfait de mon 5.
Oui.
Jour en jour, j'ai l'impression que c'est un appareil qui s'améliore au départ, qui était très, elle ne savait pas en fait c'était quoi sa charge. Là, ça va beaucoup mieux. Je suis habitué dans mon workflow de la brancher, tout ça. Puis j'ai pris un iPhone 4. 4S là, récemment, puis j'ai trouvé qu'il avait l'air d'un petit gros. T'sais. Le poids, il est beaucoup plus lourd. L'écran, beaucoup plus petit.
Ouais.
J'ai trouvé que il manquait quelque chose.
Est-ce que tu vois la différence?
C'est la différence au niveau du poids?
Non, mais quand tu prends, mettons, un 5 puis t'as un 4 ou un 4S dans tes mains, là, tu dis, aïe, qu'est-ce que je faisais avec ça à faire?
Ouais, mais tu le sens, tu sais.
Je le tiens longtemps, mon iPhone, puis c'est un 4S, là, mais j'ai pas mal au bras là, de le tenir là, pendant longtemps.
C'est vrai, mais il y a quand même quelque chose, un rapport différent à l'appareil là,
ah, ouais.
À cause du poids. C'est weird, mais ça fait quelque chose. Maintenant, la différence de prix est d'à peu près 100 $ entre acheter un 4S qui est vendu 99 $ ou je pense qu'ils le font gratuit là, à certains endroits, il y a des promotions. Mm-hmm. Puis si tu vas au 5, ben, il y a 200 $ de différence. Maintenant, ce que ça va t'acheter, c'est probablement un an de longévité si tu n'es pas un fou furieux et que tu veux garder ton téléphone 3 ans. En achetant le 5 aujourd'hui, tu es sûr que dans 2 ans, le nouveau iOS qui va sortir, tu vas pouvoir le mettre dessus puis qui va être correct. T'sais. Tandis que si tu achètes le 4S, ben Là, iOS 6 est sorti, s'installe dessus. iOS 7 va probablement s'installer dessus, mais iOS 8, ça serait très, très étonnant qu'il s'installe dessus.
Oui, parce que si on fait le fil, ce qu'Apple fait normalement avec les téléphones, il skip 3 générations, puis la dernière, merci, bonsoir, tu restes avec la dernière version.
C'est pour ça que tous les discours d'obsolescence programmée puis de pousser dans la gorge du client, je trouve ça très drôle, moi, qu'on l'entende beaucoup, beaucoup sur Apple, mais qu'on ne l'entende pas sur Android. T'sais, aujourd'hui, ils ont annoncé Nexus S n'aurait plus de mise à jour. Donc, à partir d'aujourd'hui, le Nexus S, puis c'est un téléphone qui a comme quoi 2 ans. Fait que qu'il ne soit plus mis à jour au bout de 2 ans, pour la gamme de téléphones qui est supposée être mise à jour le plus longtemps, là, qui est l'espèce... En fait, le Nexus, c'est un...
22 décembre 2010.
Et le mode de pensée, 22 décembre 2010, fait que ça a 2 ans, là, on arrive au 22 décembre 2012. Donc, c'est un mode de pensée un petit peu, c'est une mise en marché qui est un peu comme à Apple pour dire c'est l'expérience la plus pure que tu peux avoir avec le truc Android. On va mettre à jour, tu vas avoir toutes les options d'ouverte, tout ça, plus la philosophie évidemment de Android à travers ça, mais après 2 ans qu'ils te disent « no way », puis ça, on n'entend pas parler. Les discours, c'est obsolescence programmée chez Apple, le monde est en tabarouette parce que le iPad 4 est 7 mois après la sortie du iPad 3. Écoute, Apple n'a pas fait exploser le iPad 3. Là. Il est encore bon. Là. C'est le connecteur puis la puce qu'il y a à l'intérieur. Puis les gens disent « oui, mais la puce est 2 fois plus rapide ». Est 2 fois plus rapide en vidéo. Okay? Fait que si vous êtes des joueurs de jeux vidéo qui veulent avoir la meilleure expérience, vous y allez. Mais ça m'étonnerait là, qu'il y ait des hardcore gamers sur iPad. Là. Mm-hmm. J'en connais pas beaucoup. Pis... D'ailleurs, c'est une question que je vais poser à Denis dans 2 semaines. Mais du hardcore gamer sur un produit qui vend du casual gaming, je vois pas ce qu'il y a de c'est extraordinaire à ça. Ouais. Pour moi, l'iPad 3 n'est pas un appareil démodé ou obsolète.
OK. Donc, pour l'iPhone, mais si vous n'avez pas encore un 4S ou un 5 et vous avez le choix entre les deux, ça va être beaucoup une question de budget. Si vous avez le budget, moi, j'irai vers un 5 tout de suite. Parce qu'il y a aussi une question de connecteur. Parce que là, le iPhone 5, il y a le nouveau connecteur. Donc, oui. Si vous allez sur le 4S, là, vous allez vous... Il va falloir acheter peut-être des adapteurs du vieux dock. Tandis que si vous allez tout de suite avec l'iPhone 5, bien, vous allez acheter déjà les bons accessoires qui sont les plus récents.
Donc, sur le marché, il y a probablement aussi des accessoires qui sont en solde. Donc, le 4S, qui est un appareil que Apple laisse sur le marché pour descendre le prix, bien, c'est ceux qui sont budget. Là. C'est pour casser... les téléphones gratuits et tout ça, ça reste un appareil haut de gamme, vendu moins cher, qui est un petit peu plus vieux, mais qui rend encore de fiers services. T'sais. FaceTime est là-dessus, Siri est là-dessus. Il n'y a pas grand-chose que tu n'as pas, là.
Exact. C'est un peu comme une voiture. Quand on achète une voiture, on a le choix entre le modèle 2012 et le 2013 vient de sortir. Des fois, il n'y a pas une grande différence. Le modèle n'a pas très, très changé. Quelques petites améliorations technologiques. Pour sauver des sous, des fois, tu vas peut-être préférer acheter le modèle 2012, qui est en tout point pareil au niveau du design, mais qu'il y a peut-être un peu moins de par exemple, je ne sais pas, ils ont mis un GPS intégré dans le nouveau modèle puis qu'il ne l'a pas dans l'année d'avant, bon, des choses comme ça. Mais des fois, c'est quelques milliers de dollars que tu peux sauver, bien, tu vas peut-être aller vers l'ancien modèle qui est pareil comme l'autre. Mais c'est toujours une question de choix. On ne peut pas aller plus que ça.
On va passer à une autre question. On a une question de Marc Soucy.
Juste une petite seconde. Ah oui. Je ferai un petit segment, en fait, pour remercier nos commanditaires et aussi demander aux gens... Ah, bien, il y a quelqu'un qui vient d'enlever mon lien. Je voulais le lien iTunes pour les amateurs de Mac Bonsoir. pour que les gens aient faire des commentaires. On aimerait ça avoir des commentaires sur le podcast, sur iTunes. Ce serait vraiment intéressant. Et puis, je voulais remercier nos commanditaires Zone Accro et Coopicam. Zone Accro qui, en ce moment, a un concours qui est super facile à participer. Faites un j'aime sur leur page. On va trouver le lien, on va vous le donner. Il va être dans les notes du podcast aussi. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Le concours est jusqu'au 24 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez encore 10 jours pour participer. Ça, c'est le lien pour les amateurs de Mac. Bonsoir, si vous voulez aller nous laisser un petit commentaire, ce serait gentil. Et le lien pour le concours aussi va être donné. Donc, c'est 100 $ que vous pouvez gagner pour une réparation ou en fait 100 $ d'achat là, chez Zone Accro que vous pouvez utiliser, par exemple, pour faire réparer un dock connector, un écran cassé ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez ce concours-là. Et il y a un concours pour un holoclip aussi en ce moment qui est jusqu'au 24 novembre. Et à partir du 24 novembre, dans à peu près qui va être lancé, qui risque d'être vraiment intéressant. On parle de plus de 300 $ de prix. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais on va se revoir à ce moment-là.
Parfait. On va passer à une autre question?
Ouais. Oui.
Question de Marc Soucy. Mon iTunes ne communique plus avec iTunes Match ni Grace Note.
Je ne sais pas c'est quoi Grace Note.
Moi non plus.
Grace Note, c'est ce qui permet d'avoir les informations sur les disques. C'est une base de données qui, bon, par exemple, le nom de l'artiste, le nom de l'album, toutes ces informations-là, les tags d'un disque ou d'un fichier de son, c'est ce qui nous permet d'avoir. C'est une base de données, donc, finalement. De,
OK. Okay. Pour le problème d'iTunes, j'ai parlé un peu, ben, j'ai dit à Marc de nous communiquer les problèmes dans le chat. C'est pas nouveau, iTunes. iTunes Match a beaucoup de problèmes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes, je le dis à chaque fois, puis je suis pas le seul. Il y en a d'autres qui ont des problèmes avec. Il faudrait juste que tu nous dises, est-ce que tu as désactivé iTunes Match et le réactivé par la suite, Marc?
On va attendre la réponse.
Pour nous, tranquillement, dans le truc. Une fois. Je vais chatter avec toi pour essayer d'avoir un peu plus de détails là-dessus. C'est sûr que c'est la première chose à faire, puis c'est ça qu'on voit un peu partout, mais effectivement, Apple semble avoir de la difficulté avec iTunes Match. Pour 27,99 pour l'année, c'est pas si pire comme prix, mais disons que ça laisse tomber assez souvent. Toi, tu en as eu toute l'année, puis je pense que c'est toi qui nous disais que en fait, on souffle aujourd'hui les 1 an de iTunes Match.
Oui, c'est aujourd'hui que iTunes Match est sorti aux États-Unis, parce qu'il est sorti aux États-Unis en premier.
Oui, ça a pris un petit peu de temps avant de s'en venir ici. Oui,
premier anniversaire aujourd'hui.
Puis c'est ça, c'est un service qui laisse place à amélioration. Je pense qu'Apple est en train de travailler d'ailleurs sur quelque chose qui est plus streaming avec l'achat de Lala,
mm-hmm.
Il y a quelques temps. Ils sont en train de renégocier les contrats pour pouvoir faire du streaming, faire une espèce d'abonnement au mois à 4,99 ou 9,99 que les gens vont pouvoir écouter la musique qu'ils veulent. Un peu comme ce qu'il y a, c'est quoi le service qu'il y a actuellement? C'est pas Windows Phone qui offre quelque chose comme ça?
Oui, c'est Windows Maxim.
Oui, Maxime va pouvoir nous le dire dans le chat. Patrick aussi est au courant de ça. Mais il y a un service de streaming comme ça où tu as accès pour un petit paiement par mois à près de 10 millions de chansons, si je ne me trompe pas. Donc, c'est assez intéressant. Puis, si les gens se tournent vers ça, Apple va être obligé de le faire.
Xbox Music, je pense que c'est ça. Fait que... Mais ouais, mais le problème avec iTunes Match, il y en a beaucoup. Là, c'est comme... En plus que nous autres au Canada, moi j'étais genre le premier là, tu sais quand il y avait eu le problème là, tu sais que il y avait pas personne qui était capable de se connecter pour l'acheter en décembre passé, puis en tout cas j'étais capable, puis en tout cas, fait que c'est en décembre que nous on va être rechargé. Fait que j'ai hâte de voir là. Je sais pas si je vais le prendre. Fait que
Si, en fait, avant de décider de ne pas le prendre, moi, ce que je suggérais aux gens, c'est d'effacer les chansons qu'ils ont. Toi, je pense que tu l'as fait, ton espèce de,
ouais.
De téléchargement. Donc, tout envoyer, en fait, les chansons dans les nuages et toutes les retélécharger. Toutes celles qui sont, si vous voulez, associées à iTunes Match, là, à ce moment-là, vous les retéléchargez. Puis ce que ça va faire, c'est que vous allez avoir des fichiers qui sont de meilleure qualité. Vous allez avoir nettoyé toute votre bibliothèque de musique piratée datant du temps de Napster. Meilleure qualité.
Moi, je regarderais si la personne n'a pas changé d'appareil parce que c'est relié aussi à l'appareil. Si la personne n'a pas rajouté son appareil au niveau de son compte...
Quand tu fermes l'iTunes Match puis tu le réactives, puis tu te demandes est-ce que tu veux rajouter cet ordinateur à iTunes Match. Alors, l'ordinateur est automatiquement réintégré dans... Si, mettons, si la personne a changé, Bernard, j'ai tout essayé. Hey, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une AirPort Extreme 5e génération?
Moi, ça?
Non, Marc.
Ah, OK.
Toi, tu as eu des problèmes avec ça cette semaine, tu m'as dit.
C'est l'enfer.
Qu'est-ce qui se passe exactement? Tu as fouillé un peu?
J'ai pas fouillé. Il n'y a pas personne qui est capable de me répondre. J'ai fouillé, mais il n'y a pas personne qui est capable de me répondre. J'ai une AirPort Extreme 5e génération, la dernière.
Mm-hmm.
Et je ne suis pas capable d'uploader mes chansons dans iTunes. Je dois me connecter directement sur mon modem câble ou me brancher sur mon téléphone.
Est-ce que tu as essayé de changer les DNS?
Oui, j'ai mis ça de Google.
OK.
J'ai réinitialisé le AirPort Extreme au complet, là, from scratch. Puis il n'y a rien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, là, je veux dire.
Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de...
Non.
Mac adresse de whatever, là.
Non. Ça passe vraiment pas. Et dès que je me branche sur mon modem câble ou sur mon téléphone, let's go, toutes mes tunes partent. Là. Fait que ça passe tout. Fait que là, faut que j'aille. J'ai une autre personne aussi que je connais. Si la personne nous écoute, Monsieur Lemieux, bonsoir.
T'as vraiment pu trouver que c'était le AirPort là, qui te causait des problèmes, tu sais pas trop pourquoi.
Ben non, c'est ça. Parce que tu sais, j'ai essayé directement sur mon téléphone et le modem câble. Fait que c'est un peu poche. Hein. On va passer à une autre question. Celle-là, j'ai déjà la réponse. De Danick Tremblay. J'ai un MacBook Pro mi-2010 et je cherche la version de mon EFI interne. Il y a-t-il une mise à jour à faire? La dernière EFI, la dernière mise à jour EFI du board du MacBook Pro date du 23 janvier 2012. Et je peux te donner le lien dans le chat si tu veux aller voir. Ils vont te montrer aussi c'est quoi la version du boot que tu vas avoir après ou si tu l'as déjà fait, si tu l'as déjà mis à jour. C'est la dernière version du BIOS, disons.
Pour vérifier la version du EFI, vous allez dans « À propos de ce Mac », « Plus d'infos ». Et vous demandez le rapport système. Et là, en fait, dans le rapport système, vous cliquez sur... si vous êtes en français, c'est matériel. En anglais, c'est hardware. Et vous allez avoir effectivement... Là, c'est pas la version du EFI en tant que tel, mais bien du Bootrom, comme JF le disait. Donc, c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la 12e ligne qui s'appelle Bootrom version. Et là, ça va vous donner la version que vous avez actuellement.
Il n'y a pas dans le...
Je pense qu'il permet de vérifier, en fait. Là, c'est comme des menus déroulants. Tu dis ton modèle, puis tout le kit, c'est ça? C'est ça, Jeff?
Excuse-moi, je t'appelle d'autre chose, quoi?
Le lien, OK. Danick nous dit que c'est MB, BOE. Je pense que c'est la dernière version.
C'est la dernière version. Fait que t'as pas besoin de... Ben, de toute façon, même s'il y aurait une mise à jour, il te le dirait. Fait que, ouais. Mais je viens de voir là, le numéro que t'as mis, Danick, c'est la même version qui est sur le site d'Apple qui date du 23 janvier. Fait qu'il n'y en a pas de plus de récente.
Alors, la question, en fait, c'est pourquoi il pense qu'il aurait besoin de mettre à jour son EFI, puis qu'est-ce qu'il pense qu'il peut avoir comme option, là, tu sais, comme souvent, il y a des gens qui disent « Ah, c'est peut-être le EFI qu'il faut que je mette à jour parce que telle fonctionnalité ne marche pas ou quoi que ce soit. » Donc, c'est peut-être ça, là. Qu'est-ce qui fait qu'il voudrait, changer son EFI? Voilà. Tu as donné le lien,
Oui, je l'ai mis dans le chat.
Excellent. Note-le, on va le mettre dans les...
Oui, je l'ai dans mon autre screen. J'ai une autre question ici de Mathieu qui est dans le chat. C'est nouveau maintenant, on peut mettre le chat directement dans le screen. Alors, c'est beaucoup mieux.
Ah, c'est comment? Ah oui, put on screen.
Ben oui, c'était pas là avant.
Ben, les Spreecast, ils font de la bonne job. Moi, je les aime beaucoup.
Oui, moi aussi. Alors, si j'achète un iPad mini LTE et que j'ai mon iPhone avec 1 gig de données, est-ce qu'il faut un fil USB pour relier le iPad au iPhone pour que je puisse utiliser Internet avec mon iPad mini?
Non, ça ne fonctionnerait pas. C'est la connexion Internet est donnée par Wi-Fi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'appareil qui a le LTE et ensuite, en fait, il dit iPad mini LTE et que j'ai mon iPhone avec 1 gig de données. Ton iPhone, s'il est un petit peu vieux puis que tu as 1 gig de données, puis que tu veux donner le data à ton iPad, tu n'as pas besoin d'avoir un iPad mini LTE. Le fait qu'il soit LTE, c'est qu'il peut se connecter directement au réseau cellulaire sans avoir besoin de passer par un tethering de ton téléphone. Donc, quelqu'un qui aurait un iPad mini standard pourrait très bien donner l'Internet provenant de son iPhone en Wi-Fi. Puis pour ça, en fait, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est d'activer le partage de connexion. Maintenant, le partage de connexion n'a rien à faire avec le fait que ton iPad mini serait LTE. En fait, si tu veux fonctionner de cette façon-là, t'es mieux, en fait, de ne pas acheter la version LTE. C'est vraiment un abonnement qui est mensuel, qui est pas contractuel pour l'iPad. Ça, c'est un gros avantage. Ça fait du iPad mini un appareil vraiment intéressant, d'ailleurs, pour voyager.
Mais est-ce que tous les fournisseurs au Canada offrent la possibilité de transformer son iPhone en hotspot ou qu'il y en a qui ne l'offriraient pas?
Ici, les trois grands fournisseurs l'offrent. Pour Bell, il me semble qu'ils ont essayé de charger un frais puis qu'ils ont eu l'air un peu clown. Mais la condition sine qua non, c'est d'avoir au minimum 1 gig de données. Si ton forfait est de 500 MB, l'option n'existera pas parce qu'ils se disent que en la donnant à ton ordinateur ou à un iPad, tu vas la laver ben trop vite.
Avec 1 gig aussi en LTE, là, tu vas la laver.
C'est sûr que tu vas la laver, mais c'est ça qu'ils font. Puis, moi, je vous suggère, là, si vous avez un 15-20 minutes là, à perdre puis que vous ne savez pas trop quoi faire, appelez votre fournisseur puis la ridicule petite bande passante qu'il nous donne. T'sais, il y a 4 ans, en 2006, il y a même plus que ça, là, en 2006, ils ont... En fait, on a reçu l'iPhone au Canada en 2007, parce qu'en 2006, qui est sorti, mais on ne l'avait pas. Donc, le premier iPhone qui est sorti, l'iPhone 3, qui est sorti au Canada, ils ont commencé avec une bande passante, un spécial à 30$ pour 6 gigs. On est rendu avec une connexion LTE qui est autrement plus rapide. On est rendu avec beaucoup plus d'appareils qui sont vendus, que ce soit Android ou iPhone. Puis on est encore avec ce ridicule 6 gigs-là. Je comprends que si on le compare à nos connexions Internet de maison, c'est plus petit, tout ça, c'est normal, bon, le prix. Sauf que c'est cave qu'on aille ça de bande passante. Il faudrait qu'il double, tu sais, on est rendu là, là.
Puis il y a une autre question toujours en lien avec ça. Est-ce que le iPad LTE pourrait partager sa connexion, devenir le hotspot? Non, c'est juste l'iPhone qui a cette possibilité-là.
Non, puis maintenant, plus avec
iOS 6.
Donc maintenant, le iPad peut le faire, mais ça dépend de ton fournisseur.
La fonctionnalité, on a fait des podcasts.
Avec ton iPad.
La dernière fois.
Ah oui, puis j'ai bouffé ma bande passante. Ça m'a coûté 20$ de plus aussi.
Avec votre iPad.
On me dit que c'est même 2008 pour l'iPhone 3G au Canada, là, donc merci Patrick.
Ben, toujours j'avoue que j'ai pas vérifié. Ça dépend peut-être du fournisseur, mais moi, j'ai pas.
Oui, juste 20$, Patrick, exactement.
20$?
20$!
Ah oui, les aiguilles viennent de péter.
Je vais juste regarder, parce que j'ai pas l'option moi, de faire un hotspot avec mon iPad.
T'es sûr?
Il y a l'iPad 2, lui?
J'ai l'iPad 2, oui, effectivement.
Ah, peut-être.
C'est peut-être pour ça aussi. Ils l'ont peut-être pas mis dans le 2.
Connexion.
Mais j'étais TELUS sur l'iPad.
Ah, puis t'as-tu un gig?
Non, j'ai le Flex.
Oui, à partir de combien?
Le Flex, c'est peu importe. Plus tu utilises de données, plus tu vas payer.
Peut-être que c'est pour ça. Il faudrait peut-être que tu les appelles pour voir. Sinon, peut-être faire un reset des paramètres réseau pour voir si ça revient. Souvent, c'est ça après une mise à jour. Là, l'option n'est plus là.
Je miserais plus sur l'option du fournisseur que d'autres choses.
OK. On a une autre question
ouais.
De Mathieu Gosselin. Est-ce que c'est possible de downgrader l'iOS d'un iPod Touch? J'imagine, en fait, qu'il parle de downgrader de iOS 6 à 5. Les rapports, pour ça, ben, en fait, JF...
La réponse est non. À moins que vous ayez ben là, on tombe dans le monde du jailbreak ici. Il faut que vous ayez sauvegardé vos SHSH. C'est la clé. Du iPod ou du iPhone ou du iPad. Mais Apple, quand ils sortent une nouvelle version de OS, mettons de 5 à 6, ils vous laissent un deadline de... Je sais pas, je pense que c'est une ou deux journées si vous voulez downgrader d'une version à l'autre. Mais ouais. Après ça, ils bloquent le lien. Ils bloquent le lien Internet pour faire la vérification. Et après, c'est fini. Vous pouvez plus downgrader. Hmm. À moins que vous ayez fait comme M. Duchamp dit, là, un fichier IPSW, le fichier que vous téléchargez dans iTunes, avec votre clé de signature. En utilisant Red Snow ou d'autres logiciels. Mais sinon, il n'y a pas de possibilité.
Bernard, on dit que l'option de partage de connexion, c'est seulement à partir du iPad 3. Donc, ton iPad 2 ne le ferait pas à cause de ça.
Bon, en voilà une raison pour le changer.
Ah ben, tabarnouche. Vendre Alexis, il va te vendre le sien.
C'est vrai, le mien est à vendre pour, je pense que je l'ai mis à 550$. C'est un 16 gig iPad 3 LTE.
Pas cher.
Il est sur les Mac.com. Sinon, je crois qu'on avait des questions, en fait.
J'ai une question pour toi, Alexis. Oui. Quels sont les signes indiquant qu'un disque dur externe est défectueux?
Interne,
oui, excuse.
Défectueux.
Est défectueux.
La première, en fait, puis bon, ça peut mentir, là, c'est pas parfait à chaque fois, mais si vous allez dans les... normalement, en fait, on sont munis de ce qu'on appelle une technologie smart. Donc, il y a certains problèmes du disque dur dont l'ordinateur devrait vous avertir un petit peu d'avance. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est si vous allez dans les... Disk Utilities, l'utilitaire disque, puis que vous faites une vérification ou une réparation du disque, et non pas une réparation des permissions, comme je parle souvent, mais bien réparation du disque qui sont de l'autre côté. Vous ouvrez, ça ressemble un peu à un iTunes boboche. Vous avez vos disques durs d'un côté, puis le grand écran qui est à droite. Vous avez quatre boutons en dessous, dont un qui s'appelle « Réparer le disque ». Donc, vous sélectionnez votre disque, vous faites la réparation. Puis s'il y a de l'écriture rouge qui apparaît, là, bien souvent, c'est comme...
C'est pas normal.
C'est annonciateur que votre disque dur peut commencer à avoir des problèmes. L'autre truc que vous pouvez faire pour... ça peut être d'une fois de temps en temps là, pour vérifier certaines choses. Par exemple, si vous trouvez que votre ordinateur est chaud, okay, ben vous le démarrez avec la touche D pour diagnostic. Puis là, vous allez avoir une interface un peu OS 9. Et vous allez pouvoir faire un test complet de votre ordinateur, un test de diagnostic de votre ordinateur. Et il faut faire attention parce qu'il vérifie... En fait, ça non plus, ce n'est pas parfait. Si on vous dit que la pièce est bonne, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle est bonne. Mais si on vous dit que la pièce, il y a un problème avec, c'est souvent parce qu'il y a un problème avec. Donc, on peut vous avertir, en fait, que c'est une fan, simplement, qui ne fonctionne pas bien. Puis à ce moment-là, ben, l'ordinateur, justement, là, voudrait pas s'auto-détruire, donc partirait en boucle à faire des redémarrages. Il voudrait pas s'allumer comme du monde, des trucs comme ça. Puis dans ce test-là de diagnostic, une des choses qui est intéressante à voir, c'est que si vous avez changé la mémoire dans votre ordinateur, il va vous mettre un espèce de triangle pour vous dire « Hey, c'est pas de la mémoire à Apple que t'as, mais ça change rien, là, c'est correct que vous ayez de la mémoire pas Apple, elle coûte pas mal moins cher. »
Donc, même le disque dur.
Oui, le disque dur, c'est pas très cher, sauf peut-être dans un MacBook Pro Retina, parce que ça commence à être compliqué à changer. Mais sinon... Non, c'est des signes que dur est rempli à moitié ou aux trois quarts, puis que votre ordinateur commence à ralentir beaucoup. Bien là, on en parle souvent, de faire une réparation des permissions. Mais éventuellement, là, même après une réparation des permissions, après avoir passé Onyx pour faire un nettoyage, tout ça, de la cache puis de tout le kit, si vous voyez que l'ordinateur est encore lent, ça peut être un signe annonciateur que le disque dur... va pas bien. S'il émet des sons aussi, des petits toc-toc-toc, ça, souvent, en fait, quand il émet des sons, vous allez le voir, l'ordinateur ne s'ouvrira plus. Si en ouvrant votre ordinateur, comme une fois sur 5, une fois sur 2, une fois sur 10, il y a une petite filière avec un point d'interrogation dedans qui apparaît, ça peut être aussi un signe annonciateur qu'il y a un mauvais dialogue entre le disque dur et la carte mère. C'est à peu près les signes là, que je pourrais dire qui disent qu'il y a un disque dur. Bernard, as-tu d'autres choses à propos de ça?
Bien, on a dit grosso modo la question, mais il l'avait détaillé un petit peu plus aussi. Parce que lui, son disque, il ne semble pas avoir de phénomène particulier. Tout semble bien aller. Il se demandait si, bon, ma garantie de 3 ans prend fin en novembre prochain, donc ce mois-ci.
La question, en fait, était en rapport au rappel des disques durs sur les Mac, là, les Seagate qui ont été rappelés puis qui peuvent avoir un petit problème. Là.
Mais la question, c'est est-ce que je dois quand même faire le changement, même si ça va bien, parce que, bon, on sait que c'est un paquet de troubles, là, bon, faire des backups et tout ça, mais aussi, il faut l'amener au réparateur, on perd accès à notre ordinateur pendant quelques jours, voire des fois une à deux semaines, ça dépend de... Du temps chez votre réparateur, si on va le faire chez Apple ou chez au coin de la rue. Mm-hmm. Donc, il y a des gens qui vont hésiter. Si on dit, bon, mais si ça marche bien, pourquoi j'irais le changer?
Ben moi, je mettrais ça comme peut-être s'il y a un rappel sur vos voitures. Allez-vous y aller ou vous irez pas?
Je vais y aller.
Et voilà.
Moi, je le ferais personnellement parce que j'aurais un petit doute que mon disque pourrait me lâcher puis que là, il serait trop tard parce que la période de remplacement serait passée. Puis bon, j'aurais dit, bon, j'aurais donc.
Ça, en fait, c'est que votre disque, à partir du jour zéro, peut vous lâcher à tout moment.
Ouais.
Plus vous vous éloignez du jour zéro, plus les chances que votre disque dur vous lâche augmentent, qu'il y ait un rappel ou pas. Donc, si on t'offre la chance, toi, de changer le disque dur pour un appareil qui est neuf, c'est comme si on reculait l'odomètre pour cette pièce-là. C'est comme si on réusinait cette pièce-là dans ton ordinateur. Puis c'est une pièce qui est, parmi toutes les autres pièces de ton ordinateur, qui a plus de chances de lâcher. Donc, moi, je pense que j'irais dans la même optique que Jean-François et Bernard, j'irais faire changer cette pièce-là. J'irais le faire changer chez Apple, par exemple.
Oui, parce que les autres, même si vous y allez chez Apple, là, eux autres, là, ils vont brancher un de leurs disques durs dessus, puis ils vont vous faire votre backup. Là.
Oui.
Fait que.
Ah oui, ils font ça?
Ben oui.
OK.
Ben oui, j'en vois souvent. Quand je vois à peu près une fois ou deux semaines. Là. Puis je les vois souvent, les personnes qui arrivent avec leur Mac, là, ils branchent leur disque dur, ils font leur time machine, puis la personne revient, puis ils font les changements qu'ils ont besoin. Là.
C'est vraiment intéressant, la page que tu viens de mettre, Jean-François. On devrait faire un petit lexique sur Mac Québec, un petit truc avec tous les liens pour vérifier votre numéro de série si votre ordinateur est encore en garantie, liens pour aller voir s'il y a des rappels sur vos pièces, liens pour... Tu sais, toutes les espèces de spots un peu cachés chez Apple, on devrait toutes les mettre dans un article puis sur Mac Québec, une espèce de mind sheet, là, quelque chose comme ça.
C'est jusqu'à quand le rappel des disques durs?
Question. Vérifie.
12 avril 2013.
Ah, quand même. Il y a encore un bon 5-6 mois.
Oui. Fait que c'est ça. Bon, ben messieurs...
Il nous reste quelques minutes. On a encore des questions dans le document par rapport au Mac Mini.
Oui.
J'ai l'intention de faire l'achat du nouveau Mac Mini, possiblement avec Fusion Drive. Ma question est simple, mais une information FAQ sur le site de Apple rend ma décision difficile. Et la FAQ, ça dit « Can external USB Firewire or Thunderbolt hard drive be added to Fusion Drive? » Puis ça, on dit que on peut pas prendre...
La chose dans le FAQ, c'est « An external drive cannot be used as part of a Fusion Drive volume. » Fusion Drive is designed to work with an internal hard disk drive and internal flash storage.
Ouais.
Je crois mal comprendre la question et réponse. Finalement, puis-je brancher une clé USB ou un disque dur externe pour de la sauvegarde?
Tout à fait. La réponse, dans le fond, ça veut dire tu peux pas prendre quelque chose qui est à l'extérieur, un disque externe, pour le fusionner avec, bon, tu vas faire le Fusion Drive, là. Donc, oui, ici, on a...
La réponse officielle de Apple, parce qu'il y a des tests qui ont été faits et c'est possible de le faire. Donc, c'est pas recommandé. Puis probablement que la réponse de Apple, elle est là justement pour dire aux gens, faites pas ça, le clown, parce qu'à la seconde où est-ce que ton disque dur, pour une raison ou une autre, le externe, puis on le sait, là, des connexions USB puis FireWire, c'est pas le truc le plus soudé à ton ordinateur. Là.
Pas vraiment, non.
Fait que si le disque il déconnecte, tu risques de foirer ta partition, mais tellement solide.
Ah ouais.
C'est comme être en train de mettre des données sur un disque dur puis te le déploguer. Pendant ce temps-là, là, ça va pas faire du bien au disque. Donc, c'est pour ça qu'Apple dit que c'est pas possible. Maintenant, je te laisse continuer, Bernard.
Ben, c'est exactement ce que je voulais dire aussi. Si tu arrives et tu déconnectes ton disque là, par erreur ou tu as accroché le fil. Tu risques d'avoir peut-être des petits problèmes. Là. Donc, moi, je ne prendrais pas de chance. Mais par contre, si tu l'utilises, là, une clé USB ordinaire, là, tu veux pas l'en faire rentrer dans le Fusion Drive, mais tu veux vraiment l'utiliser comme d'habitude. Ou ça va fonctionner. Là, c'est sûr.
Encore plus simple, ce qui prend moins de place, tu y rentres une carte SD dedans.
Mais c'est parce que l'affaire, c'est que la question, en fait, le doute que cette personne-là a, et on la salue si elle est avec nous, c'est que le Fusion Drive, OK, qui est, puis on l'a vu cette semaine, peut se faire avec n'importe quel deux disques.
Ouais.
Apple, eux, vont le proposer avec des disques hybrides, c'est-à-dire qu'ils ont une composante SD et une composante disque standard. C'est dans l'utilitaire disque, ça devient un tout. C'est un de disque dur qui est créé entre les deux et ça devient un disque dur. Et la réponse au FAQ, c'est... En fait, la question, c'est est-ce que je peux utiliser un disque externe en USB, en FireWire ou en Thunderbolt pour ajouter à cette grappe qu'on appelle Fusion Drive? La réponse est non. Mais non. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas brancher un disque dur externe ou une clé USB à l'ordinateur pour avoir un média externe puis exact. Aller chercher de l'information, aller en mettre dessus, en partager. En fait, l'utiliser exactement de la même façon que vous l'utilisiez sur un ordinateur normal. Le Fusion Drive, c'est vraiment... C'est comme si on prenait deux disques et on les meltait ensemble, on les faisait fondre ensemble pour avoir les avantages de l'un et de l'autre. Et de la manière qu'Apple l'a programmé, pas tellement de désavantages, en fait. Le seul, en fait, c'est que comme vous avez deux disques, vous augmentez les possibilités de défaillance parce que c'est deux pièces mécaniques et que s'il y a une des deux pièces mécaniques qui a une défaillance, vous perdez l'entièreté de vos données. Comme si vous faisiez un RAID 1, ça, un RAID 50%, là, comme si vous faisiez un RAID 1, mais vous augmentez la possibilité qu'il y ait une défaillance. En fait.
Exact. Mais c'est comme... parce que la personne, excuse-moi, Jean-François, c'est parce que la personne a dans le fond, elle se demandait, je vais acheter un Mac mini, je peux-tu racheter un disque dur externe? Puis elle a lu quelque chose qui n'a pas rapport vraiment à son besoin. Elle a lu quelque chose qui a rapport au Fusion Drive, mais dans le fond, la personne se demandait juste, je peux-tu rajouter un disque dur FireWire ou Thunderbolt ou clé USB à mon Mac mini? La question de la fac, c'est pas « to be added to Mac mini », c'est « to be added to Fusion Drive » qu'elle a lu. Donc, c'est pas la même chose, là.
Mais Charles, nous parle du gars qui a fait un Fusion Drive, puis qui est, bon, il y a quelques lignes de commande. En fait, c'est en ligne de commande, on crée cette espèce de grappe-là, et le gars qui le fait avec un disque externe, pour tester si ça fonctionnait, mais c'est vraiment pas pour l'utilisation de tous les jours. Mais comme tu disais, Bernard, c'était pas vraiment... C'est ça, il est allé lire un truc qui avait pas rapport avec son questionnement.
Exact. Il reste quelques minutes, les gars, pour le show. Il nous reste deux questions qu'on a reçues. On va passer rapidement.
Okay.
Puis après ça, ben, comme à l'habitude, on va prendre quelques minutes. Puis les gens, ben, si vous allez rester avec nous, et on va enregistrer le podcast de Mac Québec tout de suite après l'émission des amateurs de Mac Bonsoir. Donc,
on va diffuser en vidéo hein, sur l'autre channel, sur un autre truc. Là. On le prend aussi en vidéo.
Oui, on donnera le lien.
Oui, on va donner le lien parce que j'ai oublié de le faire.
Parfait. Okay. J'ai la question qu'on a, c'est j'ai plus de 70 000 photos dans une librairie de iPhoto.
Oui.
C'est bien ça que je lis.
Oui.
Et bon, ça en arrache beaucoup. Est-ce que Aperture est une solution?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la base de données de iPhoto, si je ne me trompe pas, peut aller jusqu'à 99 000 photos. Ou les dernières versions de iPhoto, si ce n'est pas 99 000, c'est illimité. Mais effectivement, que si on a un appareil là, qui n'a pas vraiment beaucoup de mémoire vive, qui n'est pas nécessairement hyper performant, c'est sûr qu'ouvrir une base de données de 70 000 photos, c'est très gros. Est-ce que Aperture est plus adapté pour ce genre de travail-là? Je pense, mais comme c'est un logiciel professionnel, habituellement, c'est installé sur des ordinateurs un peu plus costauds. Puis c'est peut-être ça aussi qui va aider là, en collaboration. Un ordinateur plus costaud, un logiciel plus costaud vont être capables de mieux gérer les photos. 70 000 photos, ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas s'il n'y en a pas quelques-unes là-dedans là, qui sont floues, qui peuvent être effacées. Mais c'est sûr que si vous prenez beaucoup de photos, que vous êtes comme ce qu'on appelle un plus qu'un amateur un peu, ben le iPhoto, c'est vraiment pour monsieur et madame tout le monde. Donc, peut-être regarder du côté de Aperture. De toute façon, à prendre ce nombre-là de photos, éventuellement, vous allez tomber sur un DSLR et vous allez vouloir avoir quelque chose d'un petit peu plus puissant pour gérer vos photos.
L'autre solution, j'ai donné le lien sur le site d'Apple, c'est qu'on peut créer plusieurs bibliothèques. Donc, peut-être répartir ces photos sur plusieurs bibliothèques. Donc, pour alléger un petit peu, j'imagine qu'on n'a pas toujours besoin des 70 000 photos. Il y en a bon, un certain nombre qu'on veut comme garder en archive. Donc, moi, je créerais plusieurs bibliothèques, puis je prendrais les bibliothèques, puis je les mettrais dans un disque dur externe que je pourrais accéder par la suite.
Effectivement. Et je voulais dire, par rapport à ça, je pense que ça m'est sorti de l'idée, mais... Oui, c'est ça. Désolé. N'importe quoi, ça m'est sorti de l'idée. Je voulais rajouter quelque chose.
On peut peut-être passer à la dernière question?
Oui.
Bonjour, j'ai un iMac et je reçois un appel vidéo avec FaceTime. Est-ce possible d'augmenter le volume de la sonnerie ou changer la sonnerie comme il est possible de faire avec mon iPhone? Question de Jacques Vaudry.
C'est effectivement possible de le faire. Par contre, ça va être un petit peu... c'est pas une option là, qu'on va cocher quelque chose ou changer dans un menu déroulant. C'est-à-dire que cette sonnerie-là qui appartient à FaceTime, elle est dans les sources du logiciel. Et pour aller voir les sources du logiciel, ce qu'il faut faire, c'est aller dans le dossier application, trouver l'application FaceTime... et sur l'application FaceTime, faire un clic droit et lui demander en fait de voir l'intérieur du paquet, ou en anglais c'est show package content.
En français c'est
à l'intérieur de ça.
C'est on va afficher le contenu du paquet.
Afficher le contenu du paquet. Et dans les ressources, je ne sais pas trop où exactement, mais il y a un document AIFF, qui est un document audio, qui s'appelle... attends une seconde, je me suis mis le lien là, pour Apple, que je vous donne tout de suite sur le chat. En fait, ici, on va le mettre. Put on screen. Donc, ce lien-là vous permet de savoir ça. Affichez-moi votre... Et en fait... attends, il est où? Donc, c'est dans... c'est pas là. Où est-ce qu'il donnait first?
Il y a beaucoup d'images à l'intérieur quand tu regardes
ouais, c'est ça.
Les ressources.
C'est dans Show Package Content, Content Resource. Et là, vous allez trouver vcringing.aiff.
Ouais.
Donc, si vous voulez changer la sonnerie, ce que vous faites, c'est que vous créez un autre fichier AIFF. Vous pouvez le faire à partir de iTunes. Ce n'est pas nécessairement très, très compliqué. Et vous le nommez vcringing.aiff et vous allez remplacer le fichier son qui est là. Et à partir de ce moment-là, en fait, ben, vu que c'est le même nom de fichier, quand FaceTime sonne, lui, il fait sonner le fichier qui s'appelle vcringing.aiff. Si le fichier a changé parce que vous voulez, à ce moment-là, ça va sonner comme vous allez le vouloir. Pour ce qui est de la force du son, j'imagine que ça va être au même volume que votre ordinateur, mais c'est sûr qu'au lieu d'être un petit tididididi, si vous mettez, je ne sais pas, là, Jean-François qui crie 20$, ben, ça va sonner plus fort.
Moi, je mettrais mon petit grain de sel là-dessus. Après avoir changé le nom, après avoir remplacé le fichier que vous avez mis de votre chanson.
Juste une seconde, JF, t'es plus en onde.
Non, je sais, je suis dans l'autre parce que je viens d'aller créer le l'event, mais ils m'entendent quand même de toute façon. Moi, j'irais faire une réparation de permission.
Bien vu.
Parce que ça se peut que le fichier aille changer dans ses permissions. Fait que en faisant une réparation de permission, parce que ça se peut que si vous le faites pas, l'application ne sonne pas. T'sais. Je veux dire.
Oui, effectivement.
Fait que juste faire une réparation de permission, puis ça va régler le problème.
Je ferai un backup du fichier original jusqu'au cas qu'on voudrait revenir à l'ancienne sonnerie.
Bonne idée aussi.
Si tu écrases ton fichier, parce que ça faut avoir le même nom. Puis le fichier, il y en a trois fichiers hein, de son. Il y a le handed, invitation accepted, puis ringing. Fait que dans le fond, tu peux changer les trois sons.
Effectivement. En fait, une façon aussi de faire un backup de ce fichier-là, c'est de changer son nom, puis de rajouter simplement old. Tu sais, au nom
aussi.
Si tu rajoutes old, donc il n'est plus associé. Puis tu mets la nouvelle version qui s'appelle le nom du fichier original. Tu répares les permissions comme Jeff a dit. Puis à ce moment-là, si tu veux retourner à l'ancien, tu rentres dans le paquet, tu effaces ta nouvelle sonnerie, tu changes le nom de l'ancienne, tu enlèves le mot old, puis tout est réglé.
Mm-hmm.
Exact.
Voilà. Donc,
c'est ce Bernard? Qui complète. Nos questions pour les amateurs de Mac Bonsoir de cette semaine. Bon, sur ces bons mots, on va conclure cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Et
vous pouvez sur les internets, messieurs?
Oui, moi, je suis disponible sur Twitter avec @cybernard.
Oui, moi, c'est @jfroy79. Je suis présent 22h sur 24.
À peu près. Et pour ma part, vous pouvez me trouver au Alex Cornelier sur Twitter. Et je vous rappelle que si vous avez aimé, en fait, les informations qu'on vous a données, que vous avez besoin de quelqu'un à la maison parce que vous ne savez plus où vous en êtes avec votre Mac, eh bien, Mac Québec offre des services à domicile de consultation, de réparation et de formation. Donc, vous pouvez aller sur le site de Mac Québec et regarder dans la section « Services ». Voilà, je mets en ligne en fait les liens vers mon Twitter. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes.
Bye bye tout le monde.
Bye bye, bonne fin de soirée.